paroles d'un père de famille avec Henri Fourmi.
Chers amis de Radio Lapourdi, bonjour. La fête du Christ roi a été instituée le 11 décembre 1925 par le Saint-Pape Pie XI dans l'encyclique Quas Primas, qui s'adresse à une époque marquée par un laïcisme extrême et violent, avec en particulier l'émergence du communisme. En dépit d'un certain décalage temporel, son message connaît aujourd'hui une certaine actualité dans le dialogue ou la tentative de dialogue que l'Église essaie de proposer au monde dans ses diverses expressions politiques institutionnelles, comme dans la spécificité culturelle et religieuse des peuples. Il s'agit en fait d'un texte à portée sociale, dans lequel le Christ est présenté comme unique source de la paix, notamment politique. Vrai homme et vrai Dieu, le Christ est, par sa résurrection, roi éternel au ciel, mais aussi sur terre, dit l'encyclique. Ainsi, si la notion de royauté habite l'histoire de l'humanité, elle a marqué très particulièrement celle de la chrétienté, dont le peuple est qualifié de prêtre, prophète et roi, dès son baptême. À l'instar du Christ, ce roi venu non pas pour être servi, mais pour servir, d'après Matthieu, chapitre 20, verset 28. Cette notion de royauté s'applique donc à deux dimensions de l'homme, deux dimensions qui sont inscrites dans sa nature cosmique, dans le temps et l'espace, et qu'il doit accomplir en tant qu'esprit incarné, créé à l'image de Dieu, dont le corps mortel est, dans la foi chrétienne, appelé à la vie éternelle. Pour revenir à notre encyclique Quas Primas, certains termes font mesurer combien la divergence est historique entre la mission de l'Église et le phénomène social de laïcité qui, par certains côtés, est très agressive vis-à-vis de la religion chrétienne. Voici un extrait significatif de cette encyclique. Début de citation. On commença en effet par nier la souveraineté du Christ sur toutes les nations. On refusa à l'Église le droit, conséquence du droit même du Christ, d'enseigner le genre humain, de porter des lois, de gouverner des peuples en vue de leur béatitude éternelle. Puis, peu à peu, on assimila la religion du Christ aux fausses religions, et sans la moindre honte, on la plaça au même niveau. On la soumit ensuite à l'autorité civile et on la livra, pour ainsi dire, au bon plaisir des princes et des gouvernants. Certains allèrent jusqu'à vouloir substituer à la religion divine une religion naturelle ou un simple sentiment de religiosité. Il se trouva même des États qui crurent pouvoir se passer de Dieu et firent consister leur religion dans l'irreligion et l'oubli conscient et volontaire de Dieu. Fin de citation. Culturellement, notamment dans la civilisation gréco-latine, cette notion de royauté se retrouve dans leur très riche mythologie, avec Zeus et Jupiter, le roi des dieux qui habite l'Olympe avec les autres dieux. Cette cour divine règne sur les hommes en les utilisant comme leurs esclaves, leur faisant supporter les passions et les rivalités de leurs tribulations trop humaines. Cette interprétation inspire probablement la philosophie grecque qui dédouane à l'origine l'espèce humaine de la volonté de faire le mal, et en particulier la guerre, en affirmant que les dieux sont les vrais responsables, tandis que les hommes, esclaves des dieux, en sont les victimes. Puis, par le travail des philosophes, se dégage la notion de liberté de l'homme. Mais le culte des idoles se perpétue, avec de nouvelles idoles, moins bien identifiées comme telles, ce qui assure leur pouvoir. Dans la tradition spirituelle judéo-chrétienne, le texte de Genèse 3 rapporte l'origine de l'apparition de cette discorde profonde que l'humanité va constater, subir et entretenir de génération en génération. Elle se traduit par toutes sortes de maux dont l'homme et la femme souffrent universellement, quelles que soient les civilisations. Dans ce texte inspiré, la faute de l'homme et de la femme apparaît également atténuée, sans la disculper totalement. En effet, c'est par l'intervention mystérieuse d'un serpent qui crée le doute dans l'esprit et le cœur d'Ève. Cela conduit l'humanité à désobéir au commandement de Dieu dans l'espoir de devenir comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Pourtant, Dieu avait prévenu Adam et Ève de ne pas manger du fruit de l'arbre, parce que le fruit de l'arbre de la connaissance les conduirait à la mort. Malheur à Ève et à Adam qui se laissent entraîner sans méfiance à ce péché originel qui leur fait perdre leur statut de petits princes du jardin d'Éden. Et malheur à l'humanité dont l'intelligence, la volonté et la liberté vont être désormais blessées dans leur faculté de conduire au bonheur. C'est le Christ rédempteur et lui seul qui sauve l'humanité de cette blessure. Entre la mythologie grecque et le texte de la Genèse, il faut souligner cette volonté de disculper l'humanité d'une responsabilité vis-à-vis du mal qui relève d'une origine, qu'elle soit divine avec Zeus et son panthéon, ou mystérieuse avec le serpent du jardin d'Éden, et dont l'humanité est la première victime. Cette prise de conscience rend, ou tend à rendre, à la nature humaine sa profonde dignité, en dépit des souffrances que par ses propres actes, elle subit et fait subir. Si la mythologie grecque fait de l'homme un jouet des puissances divines, le condamnant à n'être qu'un esclave, la philosophie grecque va ouvrir une brèche dans cette fatalité en apportant, par une rationalité rigoureuse de l'intelligence, dont nos civilisations occidentales ont hérité, une espérance de liberté. Au cours des siècles, cette notion de liberté va se développer dans cette pensée occidentale, grâce en particulier à la richesse de l'héritage judéo-chrétien, qui place l'homme au sommet de la création et lui promet la vie éternelle. Malheureusement, en oubliant à l'excès les références poétiques, mythiques ou mystiques de ses origines, c'est-à-dire cette nature humaine profonde qui détermine le sens de sa finalité, l'humanité se trouve aujourd'hui dans une impasse. En fait, elle a construit une nouvelle idole avec sa liberté, la voyant comme une fin alors qu'elle doit rester au service de son bonheur. Aujourd'hui, la liberté est devenue le Dieu suprême, sans que l'on définisse ce qu'est la véritable liberté, sans que l'on partage de manière commune ce qu'est le bonheur. Au terme de cette démarche, une telle liberté idéale se révèle être la prison de l'individu, l'origine d'une solitude dans une multitude indifférente. Pire, la cause des oppositions et conflits viennent souvent d'une liberté qui ne se respecte pas dans sa propre vérité, ni dans la diversité de ses expressions. Cette fausse liberté, finalement, recréait l'Olympe avec ses divinités qui faisaient de l'homme un esclave de leurs passions. Sauf qu'il est devenu l'esclave de ses propres passions. Le pape Pie XI dresse dans son encyclique Quias Primas une liste très significative de la situation du début du XXe siècle, dont les termes sont d'une redoutable actualité en ce début du XXIe siècle. Début de citation. Les fruits très amers qu'apportait si souvent et d'une manière si persistante cette apostasie des individus et des États désertant le Christ, nous les déplorons de nouveau aujourd'hui. Fruits de cette apostasie, les germes de haine, semés de tous côtés, les jalousies et les rivalités entre peuples qui entretiennent les querelles internationales et retardent actuellement encore l'avènement d'une paix de réconciliation. Les ambitions effrénées qui se couvrent bien souvent du masque de l'intérêt public et de l'amour de la patrie, avec leurs tristes conséquences. Les discordes civiles, un égoïsme aveugle et démesuré qui, ne poursuivant que les satisfactions et les avantages personnels, apprécie toute chose à la mesure de son propre intérêt. Fruit encore de cette apostasie, la paix domestique, bouleversée par l'oubli des devoirs et l'insouciance de la conscience. L'union et la stabilité des familles chancelantes, toute la société enfin, ébranlée et menacée de ruine. Fin de citation. Il apparaît important de retrouver le fondement de notre véritable liberté qui fait de chacun une personne, avec la beauté, la richesse, sa faiblesse aussi, et son caractère unique et donc sacré. Comme l'affirme saint Ambroise de Milan, celui qui soumet son propre corps et régit son âme sans se laisser submerger par ses passions peut être appelé roi. Pour le chrétien, le Christ roi offre cette référence de liberté qui se fait serviteur des petits et des exclus, qui se donne gratuitement, avec pour seul objectif le bonheur de l'autre, y fondant son propre bonheur. Certes, des témoins existent aujourd'hui, mais ils sont assez peu médiatisés. Toutefois, vous en connaissez certainement dans votre entourage. Vous avez également expérimenté dans votre propre vie ces moments de joie, de paix et cette plénitude qui vous font prendre conscience que vous aussi, même si c'est trop fugace et bien humble, à l'occasion d'un acte généreux, simple et désintéressé, une âme royale vous inspire et vous anime. En ces temps de couronne usurpée, et pas seulement par des virus, chacun est appelé à vivre par une foi libre de toute convoitise, une royauté qui ne doit rien aux idoles. Cette royauté n'est pas de ce monde, mais elle doit s'exercer dans ce monde où nous vivons par nos actes libres, signe de notre souveraineté. Cette souveraineté s'ancre dans une espérance plus forte que la mort et qui s'exprime dans le moindre geste quotidien, pourvu qu'il soit offert pour le bonheur de l'autre. C'est pourquoi le pape Pie XI insiste sur cette fête du Christ-Roi en affirmant « Si les hommes venaient à reconnaître l'autorité royale du Christ dans leur vie privée et dans leur vie publique, des bienfaits incroyables, une juste liberté, l'ordre et la tranquillité, la concorde et la paix publique se répandraient infailliblement sur la société tout entière. » Bonne fête du Christ-Roi. Merci de votre attention. À une prochaine fois.
Parole d'un père de famille avec Henri Fourmi.